VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 10 octobre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. Au Tchad, prestation de serment aujourd'hui du général Mahamat Idriss Déby Itno, désigné président d'une transition prolongée de 2 ans par le dialogue national. L'ONU condamne le meurtre odieux de 15 migrants et demandeurs d'asile en Libye et appelle à traduire les auteurs en justice. Visite en Algérie de la première ministre française Elisabeth Borne après le rapprochement amorcé fin août par les présidents Macron et Tebboune. Le président russe Vladimir Poutine accuse Kiev de terrorisme après l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée. La Corée du Nord affirme avoir mené des simulations nucléaires tactiques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Tchad, le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, doit prêter serment aujourd'hui devant les membres de la Cour suprême après avoir été maintenu par le dialogue national à la tête d'une transition prolongée de 24 mois. Les travaux du dialogue national ont pris fin samedi à N'Djamena. Notre correspondant sur place, André Kotmajingar.
Les délégués à cette grand-messe politique ont prolongé de 2 ans la période de transition et ont autorisé les dirigeants à se présenter à toute fonction élective. Les participants ont aussi modifié la charte.
La charte de transition promulguée le 21 avril 2021 est révisée et adoptée par consensus comme loi fondamentale de la République du Tchad. La charte de transition révisée sera promulguée par voie d'ordonnance.
Ils ont décidé de dissoudre le conseil militaire de transition et nommé à la tête de la transition post-dialogue le général Mahamat Idriss Déby.
Le conseil militaire de transition CMT est dissous. Le général Mahamat Idriss Déby Itno est désigné président de transition, président de la République, chef de l'État.
Le général 5 étoiles doit prêter serment ce lundi devant la Cour suprême. Les délégués ont réaménagé le Conseil national de transition, une institution qui va jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Le nombre des conseillers nationaux passe de 93 à 197. Les ex-politico-militaires signataires de l'accord de Doha se taillent la part de Lyon avec 45 sièges. Les représentants de l'Église catholique, plusieurs membres de la société civile, ainsi que le parti Les Transformateurs n'ont pas participé à ce dialogue dit national et inclusif. André Kotumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le gouvernement du Congo-Brazzaville a décidé d'exonérer de taxes plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère, selon une circulaire dont l'AFP a reçu copie dimanche. Sont concernés le blé, l'huile végétale raffinée, les viandes et abats domestiques congelés ou encore les poissons de mer congelés. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé dimanche que 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé, ont trouvé la mort lors de son naufrage vendredi au Nigeria. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer le navire. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné dimanche ce qu'elle a qualifié de meurtre odieux d'au moins 15 migrants et demandeurs d'asile dans la ville libyenne de Sabratha, dans l'ouest du pays. La Manoul appelle à traduire les auteurs en justice. Le point avec Abdourahmane Dia.
11 corps calcinés ont été retrouvés à l'intérieur d'un bateau amarré et 4 autres corps portant des blessures ont été retrouvés à l'extérieur, a indiqué la mission dans un communiqué. Bien que les circonstances exactes restent à déterminer, les meurtres auraient résulté d'affrontements armés entre trafiquants rivaux, selon l'ONU, qui a exhorté les autorités libyennes à garantir une enquête rapide, indépendante et transparente pour traduire tous les auteurs en justice. Elle déplore le manque de protection auquel sont confrontés les migrants et les demandeurs d'asile en Libye, ainsi que les violations généralisées des droits humains perpétrées par de puissants réseaux de trafiquants et criminels. Selon les médias locaux, ces migrants, pour la plupart issus d'Afrique subsaharienne, ont été tués jeudi par des tirs à la suite d'une dispute entre passeurs. Un des groupes de passeurs impliqués a ensuite mis le feu au bateau, selon les mêmes sources. Les faits se sont déroulés à Sarata, à 70 km de la capitale Tripoli, et un important point de départ pour des milliers de personnes qui cherchent à rejoindre les côtes italiennes.
La première ministre française, Elisabeth Borne, a entamé hier dimanche une visite de 2 jours en Algérie qui vise à concrétiser le partenariat conclu fin août par les présidents des deux pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Accompagnée de 15 ministres, Elisabeth Borne a été accueillie à son arrivée par son homologue algérien, Aymen Ben Abderrahmane. La chef du gouvernement français s'est rendue ensuite au monument des martyrs, au lieu de la mémoire de la guerre d'indépendance, pour y déposer une gerbe, avant de faire de même au cimetière Saint-Eugène, où reposent de nombreux Français nés en Algérie. Elisabeth Borne sera reçue aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. La commission d'historiens algériens et français, dont les présidents français et algériens avaient annoncé fin août l'installation prochaine pour examiner sans tabou les archives des deux pays, est encore en cours de constitution selon Paris. Cette visite de Mme Borne a pour but de renforcer le rapprochement des deux pays amorcé fin août. Après des mois de crise diplomatique, le président français Emmanuel Macron et M. Tebboune avaient annoncé une nouvelle dynamique dans la relation bilatérale à l'occasion d'une visite de 3 jours du chef de l'État français en Algérie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine accuse les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de la puissante explosion qui a endommagé la veille le pont de Crimée, qu'il a qualifié d'acte terroriste, Nathalie Barge.
Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens, a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec le chef du comité d'enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique, ajoutait M. Poutine. Une puissante explosion que les autorités russes ont attribuée à un camion piégé a endommagé samedi matin le pont de Crimée, une voie routière et ferroviaire reliant la Russie à cette péninsule annexée en 2014. La Russie s'était gardée jusque-là d'accuser Kiev de cette attaque qui a fait 3 morts et l'Ukraine n'a pas revendiqué de responsabilité. Le pont de Crimée, construit à grands frais et inauguré en 2018 par Vladimir Poutine, sert également au transport logistique pour les troupes russes combattant en Ukraine. Les autorités ukrainiennes avaient menacé à plusieurs reprises de le viser. C'est dans ce contexte que le président russe réunit ce lundi son conseil de sécurité avec des ministres responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté qualifié les militaires russes de terroristes après des frappes sur des immeubles d'habitation de Zaporizhia, ville du sud de l'Ukraine, qui ont fait entre 12 et 17 morts selon les bilans, 3 jours après de précédents bombardements qui avaient fait 17 morts. La Corée du Nord a affirmé ce lundi avoir simulé des frappes nucléaires tactiques ces 2 dernières semaines, personnellement supervisé par le dirigeant Kim Jong-un, en réponse à la menace militaire posée selon elle par les États-Unis et leurs alliés. Elle a parlé spécifiquement des manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes dans la région. Pyongyang a multiplié depuis le début de l'année ses essais d'armement, tirant notamment la semaine dernière un missile balistique au-dessus du Japon, une première en 5 ans. Et la communauté internationale s'attend à ce que la Corée du Nord effectue prochainement un essai nucléaire, ce qui serait également une première en 5 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé dimanche le déploiement d'une force armée internationale en Haïti, pays pauvre des Caraïbes paralysé par une crise sécuritaire dramatique sous l'emprise de bandes criminelles et sous la menace du choléra. La Minute Écho, Nani Talani.
Le Burundi a annoncé la réouverture des bureaux de change plus de 2 ans après leur fermeture, décidée par la Banque centrale pour lutter contre la dépréciation du franc burundais. Les anciens opérateurs dans le secteur et toute personne voulant y opérer sont invités à se faire enregistrer auprès de la Banque centrale, selon un communiqué signé vendredi par cette banque. En 2020, Bujumbura avait pris une série de mesures pour contrôler les devises étrangères en circulation, en sanctionnant notamment tous les bureaux de change qui ne respectaient pas la réglementation en vigueur, leur imposant de limiter à 15% leur marge sur les opérations. La Guinée-Bissau reçoit l'aide de la BAD pour développer ses infrastructures énergétiques et de transport entre 2022 et 2026 afin de favoriser la transformation des produits agricoles et poser les bases d'une croissance inclusive, résiliente et durable. Cela induit les initiatives entrepreneuriales à même de créer davantage d'emplois. Dans le secteur de l'énergie, l'objectif est de renforcer le réseau de distribution afin d'étendre l'accès à l'électricité à une grande majorité de la population. Terminons par la société algérienne des hydrocarbures Sonatrach qui a signé un contrat avec son principal client en Espagne, Naturgy, pour réviser les prix du gaz qu'elle lui fournit à la lumière de l'évolution du marché, assurant ainsi l'équilibre de leur contrat sur une base gagnant-gagnant.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
L'actualité sportive africaine dominée par le football et les interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, chute au Nigeria face à Rivers United, score 2-1. Même scénario pour l'Espérance de Tunis, battue elle aussi au Nigeria par Plateau United. L'ASEC Mimosa s'incline à domicile 1-0 devant les Guinéens de Oroya. En revanche, Mamelodi Sundowns a presque validé sa qualification après son carton de 7-0 sur le terrain des Seychellois de La Paz.
C'est presque assuré aussi pour les deux clubs égyptiens.
Al Ahly et le Zamalek, tous vainqueurs sur le même score 1-0 à l'extérieur, respectivement à l'US Monastir et à Bujumbura contre Flambeau du Centre. Victoire en déplacement également des Marocains de Raja de Casablanca 2-0 au Niger face à Nigelec, des Algériens de la JS Kabylie 2-1 chez les Togolais de Lasco de Kara et des Tanzaniens de Simba 3-1 en Angola face au Primero do Agosto. Par contre, rien n'est encore joué pour le tout-puissant Mazembe, tenu en échec 0-0 à Kampala chez les Vipers.
On jouait aussi le second tour préliminaire aller en Coupe de la CAF.
Et les Marocains de l'ASFA ont pris une sérieuse option sur la qualification en dominant 4-0 les Guinéens d'Agenti Golden Boys. L'USM Alger garde aussi ses chances de qualification, tout comme les Égyptiens de Pyramide, des Sud-Africains de Marumo Galant et des Congolais de Saint-Éloi Lupopo, vainqueurs 2-0 des Angolais de Sagrada Esperanza. Pour le reste, notons entre autres la nette victoire des Maliens de l'AS Real de Bamako et des Libyens d'Al Agda 3-0 face aux Guinéens d'Asofok et aux Tanzaniens d'Azam. Le tenant du titre, la Renaissance de Berkane, a fort à faire puisque battu 3-1 au Nigeria par Kwara United.
Football toujours avec les qualifications pour la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Le Sénégal et le Mali représenteront la zone UFOA A.
Les deux pays ont validé leur billet à l'issue des éliminatoires qui ont eu lieu en Mauritanie. Les Sénégalais ont cravaché pour venir à bout de la Sierra Leone au tir au but 6-5, 0-0 après le temps réglementaire, tandis que les Maliens ont écarté le pays hôte, la Mauritanie, 2-0. Sénégal et Mali rejoignent ainsi le Nigeria et le Burkina Faso pour les qualifier de l'Afrique de l'Ouest. La CAN des moins de 17 ans, on le rappelle, aura lieu du 8 au 30 avril 2023 en Algérie.
Dans le reste de l'actualité sportive du handball avec l'épilogue des championnats d'Afrique des clubs champions hommes et dames.
Oui, et l'Espérance de Tunis s'offre le trophée chez les messieurs suite à sa victoire 28-24 face aux Zamalek du Caire. Après avoir remporté la Coupe arabe des clubs champions, les Sang et Or viennent de réaliser le doublé contre le même adversaire. Par contre, chez les dames, dans une finale 100% angolaise, c'est bien le Primero do Agosto qui est sorti vainqueur du Petro Atletico 29-24 et conserve du coup son trophée.
Et puis on termine avec du cyclisme, l'épilogue du Grand Prix Chantal Bia.
Et c'est Assel Thaïlandier de l'équipe France Défense qui s'ajuge le maillot jaune à l'issue de la cinquième et dernière étape courue entre Sangmélima et Mayo Messala. Une étape de 134 km, remportée d'ailleurs par l'Algérien Abderrahman Mansouri. Le Français succède ainsi au Slovaque Lucas Kubis au palmarès de l'épreuve camerounaise.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le chef de la junte a clôturé samedi les travaux du dialogue national. Les participants ont dissous le conseil militaire de transition et consacré le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition. Il a la possibilité d'être ensuite candidat aux élections. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Aujourd'hui, je peux affirmer avec force que la mission est bien accomplie et les objectifs ont été atteints.
Le général Mahamat Idriss Déby se félicitant des conclusions du dialogue national. Il a vu non seulement son pouvoir renforcé, mais peut se présenter aux élections après 2 ans de bonus. Mahamat Idriss Déby a pris l'engagement de libérer tous les prisonniers de guerre, mais n'a pas donné sa position s'il sera candidat ou pas. Réaction d'Avenir de la Tirée, un journaliste indépendant.
L'objectif même de ce dialogue était de légitimer sa candidature aux prochaines élections. Et donc, il s'y est pas prononcé, il est malin, il a laissé ça ouvert, c'est pour revenir dire demain que non, c'est le peuple tchadien qui m'a demandé de me présenter. D'ailleurs, il n'y a pas eu dialogue, hein. Il y a eu juste une assise qui a ouvert la voie à légitimer un pouvoir qui, en tant que gouverneur, ad vitam aeternam. Donc, c'est un non-événement qui tire véritablement le Tchad vers le bas.
Le général 5 étoiles, Mahamat Idriss Déby, estime pour sa part que ces résolutions posent des jalons d'un Tchad tournant vers l'avenir.
Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire pour bâtir une nouvelle république refondée sur la base d'un nouveau contrat social.
Pour notre confrère Avenir de la Tirée, les Tchadiens ne peuvent rien attendre de ces instances.
On ne peut pas faire un Tchad nouveau avec des gens qui ont tué, qui ont assassiné sans être punis, avec des gens qui ont pillé. C'est avec les mêmes combattants, les mêmes généraux qui asphyxient l'économie nationale. C'est avec ces gens qu'on va faire un Tchad nouveau. Est-ce que c'est dans un contexte d'injustice caractérisé qu'on peut voir un Tchad nouveau naître? Ce sont des déclarations politiques qui n'engagent que le président Mamadou Kaka et aucun Tchadien n'est dupe.
Le désormais président de transition post-dialogue en est conscient et entend agir pour le vivre ensemble de tous les Tchadiens.
Ce dialogue aura mis en évidence que l'injustice, l'impunité, le clientélisme, le népotisme, le détournement, les conflits, les dures conditions et les préoccupations de la diaspora sont autant de sources de frustration qui entravent le développement, perturbent le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Nous en sommes conscients et nous devons agir pour que ce désir de vivre ensemble demeure une réalité.
Le président du parti, les démocrates, le professeur Avaksuma Jonah Achenemo, estime que les partis et autres organisations autour du chef viennent de légitimer un coup de force qui va enfoncer davantage le pays.
On remet tous les pouvoirs à un seul individu qui fait la pluie et le beau temps. Moi, je suis complètement déçu de ce qui s'est passé.
Pour moi, ce n'est que un autre recommencement. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés pour attendre que les mêmes personnes qui nous narguent puissent encore continuer de piller à ciel ouvert.
C'est inadmissible.
Les militants et sympathisants du parti Les Transformateurs et ceux de la coordination des actions citoyennes Wakitama disent attendre des pieds fermes la réaction de leur leader quant à la conduite à tenir. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, le gouvernement a décidé lors de son conseil des ministres du 5 octobre de militariser la police nationale et la protection civile afin de déployer la police dans les zones reconquises par l'armée pour sécuriser les personnes et leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Cette mesure prise par les autorités de la transition va, selon elle, concourir à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. Il s'agit aussi de répondre aux recommandations formulées par les Maliens lors des assises nationales. Pour Souleymane Sanogo, directeur de publication de l'hebdomadaire malien L'Essentiel, cette volonté de vouloir militariser la police vise à taire les divergences pour faire face au terrorisme.
Cette initiative était vraiment sollicitée par les populations du Mali de militariser la police malienne. Parce que quand vous constatez aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats, de groupements de syndicats au sein de la police qui sont tout le temps dans les revendications. Et en temps de crise, je pense que tous ces corps doivent être unis pour faire vraiment un front commun aux ennemis.
Cette décision, selon le politologue Boubacar Bokoum, s'inscrit dans le cadre de la décentralisation et aussi de taire les nombreuses revendications des syndicats de police.
Donc pour plus d'efficacité et d'efficience dans la façon dont la police va être déployée, ils vont quitter la posture des mairies pour être intégrés dans un système de fonctionnariat qui va leur permettre d'être réglementé sous la coupe militaire, qui va permettre d'avoir plus d'organisation et de respect de la hiérarchie militaire, ce qui va faire qu'ils vont quitter le paradigme de pouvoir manifester, de pouvoir revendiquer.
Pour le sergent de police Sekouba Kamara, porte-parole du syndicat autonome de la police, cette décision a été bien accueillie car émanant de la volonté populaire, mais il estime que des réglages doivent être faits avant son application.
Il y a un problème. Quand vous prenez la police, vous trouvez qu'à la police, il y a trois corporations. Il y a le corps des sous-officiers, il y a le corps des officiers et le corps des commissaires. Tandis que sur les militaires, vous verrez qu'il y a le corps des sous-officiers et les officiers. Donc maintenant, pour pouvoir transposer ces grades-là, il va falloir mettre en place une commission avant l'adoption même de la loi par le CNT. Cette commission va traiter ce problème-là.
L'autre objectif, et non des moindres, c'est la compensation du faible effectif des forces armées engagées sur plusieurs fronts. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les prix du café et du cacao connaissent une hausse depuis le 1er octobre, au titre de la campagne agricole 2022-2023. Cependant, certains producteurs restent sceptiques quant au respect de ces tarifs par les pisteurs. Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
900 francs le kilogramme pour le cacao, 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023.
Ces prix Borchon annoncés par le vice-président ivoirien Timoko Méliès Koné sont une récompense après de durs mois de labeur. Cambousier, président de la Fédération des producteurs de café cacao.
L'année passée, on avait 825. Cette année, on a 900 francs au kilogramme. C'est salutaire. Des efforts sont véritablement faits pour que le producteur ait un revenu meilleur.
Pour Jacques Kouakou de la Fédération Café Cacao, c'est une surprise agréable.
On est tous contents parce que le prix, nous, on ne s'attendait pas à ça. Et Dieu merci, le gouvernement a augmenté pour nous. Sincèrement, ça nous a beaucoup plu.
Les producteurs des villes de Soubré et de Miadji, dans le sud-ouest du pays, des zones à fort taux de production, expriment également leur joie.
En tant que fils de producteur, nous, on est content. C'est vraiment ça motive le producteur à bien travailler, à suivre la durabilité, la certification aussi.
Je dis merci au gouvernement, j'ai construit ma maison, il va achever cette année.
Surtout à cette rentrée scolaire,
c'est un gain pour les planteurs.
Cependant, pour Dame Thérèse Diomandé, la présidente des productrices de la région du Tontu dans l'ouest montagneux, il faut être vigilant sur le respect de ces prix Borchon garantis et faire barrage aux acheteurs et pisteurs véreux.
Dans le monde rural, il y a d'autres qui vont aller emballer nos producteurs encore. Moi, j'invite aujourd'hui productrices et producteurs à refuser tous ceux qui viendront payer cacao en dessous de 900 francs et en dessous de 750 pour le café.
Promouvoir les les opportunités d'investissement dans la filière, c'est aussi le pari à gagner, selon Yves Brahim Kone, le directeur exécutif du Conseil Café Cacao.
La volonté de la Côte d'Ivoire est donc de permettre à ses producteurs d'augmenter leurs revenus en accédant aux autres paliers de la chaîne de valeur.
Puis au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural d'inviter à une modernisation du secteur. Kobena Kwasi Adjoumani.
Le contexte international appelle à une accélération de nos initiatives en faveur de la modernisation du secteur agricole et de la transformation de nos produits agricoles sur place.
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes par an, couvre l'offre mondiale de 40% et veut désormais être un leader de la transformation locale. Delphine Abouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, les femmes ont pris d'assaut le monde de l'entrepreneuriat et excellent dans la transformation agroalimentaire. Notre correspondante à Cotonou nous amène à la découverte de deux femmes qui sont parties de rien, mais qui aujourd'hui émergent dans le secteur de l'agroalimentation. Jeannette Fleur Adindé.
L'entrepreneuriat féminin fait son chemin dans un monde dominé par les hommes. Certaines femmes bardées de diplômes ont préféré démissionner de leur poste pour prendre le chemin incertain de l'entrepreneuriat. Odile Yonwin, promotrice de la marque Nourée, met sur le marché la farine de souchet au gingembre ou à la banane plantain, la crème liqueur de souchet, le lait de souchet, les biscuits croquettes de souchet et bien d'autres.
Je suis véritablement et naturellement portée vers les petits commerces. Et depuis toute petite, j'aime vendre de petites choses. Et même déjà l'université, j'achetais même déjà le souchet de 25 francs que je vendais en classe. Innover est aussi une passion pour moi. Et donc j'ai constaté que d'abord le souchet fait partie d'une espèce négligée, c'est-à-dire beaucoup ne s'y intéressent pas.
La passion accompagne souvent la vision ou l'inverse. Euphrasie Dassondo, fondatrice de l'entreprise AgroExpress, spécialisée dans la transformation de la tomate et des épices.
Mon entreprise a démarré avec 30 000 francs en 2013 où je transformais essentiellement des tomates. Quoique j'arrivais à transformer 6 ou 8 paniers de tomates par jour. Mais aujourd'hui, notre unité a la possibilité de transformer une tonne de tomates par jour.
Odile Yonwin, après ses études, s'est retrouvée dans un ministère de la place. Elle a vite compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais d'installer la plus grande entreprise de transformation de souchis en Afrique et dans le monde.
J'ai pris mon destin en main et j'ai réussi avec les bénéfices et les ventes que nous faisons. Investi dans mon activité. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir convaincu mon père qu'il a laissé son terrain à notre disposition. Et là, j'ai pu construire ce centre dans lequel nous sommes. Pas aussi le centre, j'ai aussi acheté des machines pour la production.
Pour Daniel Lyon, le père de la jeune entrepreneur, cela n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il se dit fier de sa fille.
Au départ, effectivement, je ne peux pas dire que j'ai accepté 100%. J'ai refusé. Elle insiste toujours de faire. Elle a fait à la direction générale, puis toi. Donc, moi, franchement, je veux qu'elle est juriste, un magistrat, un avocat. C'est une fille, vraiment, qui aime travailler.
Pour Euphrasie Dassondo à Soba, si le chemin a été parsemé d'embûches.
En termes d'entrepreneuriat, les débuts sont toujours compliqués. Pas mal d'obstacles, surtout par exemple pour l'écoulement des produits. Faire accepter le produit aux clients, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Donc, il a fallu beaucoup de persévérance pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup aider, c'est le soutien de la famille, de surtout mon mari et de quelques parents proches que je ne cite pas forcément, qui m'ont aidé à tenir réellement le coup.
Odile a son diplôme en gestion de l'administration et celui de droit qui lui sont utiles dans son entreprise.
Mon diplôme en administration, ça m'aide à gérer d'abord la ressource humaine parce que parfois il y a des conflits qui naissent entre les employés, donc il faut gérer tout ça. Maintenant, mon diplôme de droit me permet aussi de respecter les normes en matière d'entreprise.
Avec son âge relativement jeune, elle contribue de manière significative à la sécurité alimentaire et au développement économique local. Efrazida Sundo Asoba met ses connaissances au service des jeunes entrepreneurs qui désirent évoluer dans la transformation agroalimentaire.
J'ai commencé par me faire former dans la transformation proprement dite. Ensuite, j'ai suivi beaucoup de séances de coaching en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, gestion du personnel, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être réellement polyvalent.
Aujourd'hui, appuyé par le PNUD de l'ambassade des États-Unis, le gouvernement béninois et les banques locales, elles sont nombreuses, ces femmes qui, comme Euphrasie et Odile, travaillent à donner de la valeur au secteur agro-industriel au Bénin. De Cotonou, Zinette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.